À tous. Il y a 40 ans aujourd'hui, on n'emmenait pas large avec la Michou, Rachel. Hein? Il y a 40 ans aujourd'hui, on se préparait pour le mariage. C'était. Était prête, tout était prêt, on allait à la mairie, partir ensuite faire bénir notre mariage chez les Roms. Hein, pour ceux qui disent que je suis raciste, c'est un peu raté là. Hein. Je me défie, il n'y a pas grand monde qui était se faire bénir dans l'église des Roms parmi les Français. Eh bien nous, oui, voilà. C'était une journée extraordinaire, il y avait tellement de fleurs qu'il n'y avait pas assez de vases, alors les Roms sont allés chercher des seaux. Alors, il y en avait des bleus, des rouges, des jaunes, des verts. C'était des seaux avec des fleurs partout. Il y avait 7 pasteurs qui étaient là. À l'époque, j'avais la cote. Hein. Mais il y en a quelques-uns qui sont morts d'un à Pigalle dans une boîte de nuit. Vous voyez, non, c'est grave, hein, mais enfin voilà. Le pasteur Lecossais qui a béni notre mariage, je me rappelle toujours. Il m'a dit, Michel, tu as vraiment choisi une femme spirituelle, une jeune femme spirituelle, tu seras heureux, c'est bien, gloire à Dieu. Puis il s'est tourné vers Michou, il lui a dit, mais toi alors, par contre, tu ne le verras pas beaucoup ton mari, parce que les serviteurs de Dieu, ils sont toujours par Mont et par Vaud, à voyager et tout. Il parlait pour lui, hein, parce qu'en fait, nous, on est toujours ensemble. Amen, c'est une bonne chose, on a compris l'importance de la famille. C'est très important que la famille soit toujours bien unis. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est le cas. Notre fille est là, notre gendre est là, nos petits-enfants sont là, notre belle-mère est là. C'est magnifique, c'est une vie vraiment merveilleuse. Depuis 40 ans, et ce soir, eh bien, nous allons nous éclipser, Michou et moi, pour aller manger quelque chose de bon à Paris. Je ne vous dis pas où, parce qu'il va y avoir une foule d'admirateurs. Voilà, non, ça sera super, ça sera bien, on est contents. Dieu nous a bénis, vraiment, Dieu nous a bénis. Quand on regarde ces 40 années, ça a passé. Il me semble que j'ai toujours été marié avec la Michou, moi. C'est vrai, elle me disait ça l'autre jour. Toi aussi, ça te fait ça, tu as toujours été marié avec la Marie-Claire. Ça nous donne cette impression. Voilà comment j'étais avant, je ne sais plus, on ne pèle plus. Voilà. Eh bien, nous allons bientôt, lorsque notre temple sera érigé, demander que notre mariage soit scellé pour l'éternité, parce que vraiment, on y tient vraiment. Amen, ma chérie, c'est bien, gloire à Dieu. Bien, et bien ce matin, on va commencer, ça va être un peu spécial, je suis toujours un peu spécial avec moi. On va commencer par Éphésiens chapitre 5, verset 20. On va commencer au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, on vient de le faire. Des cantiques spirituels, on vient de le faire, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que tous, tôt ou tard, nous connaissons des moments où notre univers se fissure et où nous avons l'impression d'être seuls, frustrés, malheureux, perdus. Et ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Je me rappelle, dans les années 60, on disait quelqu'un qui a une dépression nerveuse, c'est qu'il a un démon. Et puis on s'est aperçu que c'était une grosse bêtise. Quand je dis « on », c'est pas moi, je n'ai jamais dit une bêtise pareille. Mais ça peut nous tomber dessus. Et puis beaucoup d'autres choses, un deuil, beaucoup, beaucoup de choses peuvent nous tomber dessus. Personne n'est à l'abri. Chaque personne a une situation différente et les détails de la vie de chacun sont uniques. C'est unique. C'est pourquoi il est difficile, on peut compatir, mais c'est difficile de vraiment comprendre les gens parce qu'on est tous différents. On est tous différents. Et très vite, dans ma relation avec Dieu, j'ai appris qu'il y a une chose qui enlève l'aigreur qui peut venir s'installer dans notre vie. Il y a une chose que nous pouvons faire. Parce que quand on est comme ça, dans le désarroi, quand on est pris dans un tsunami de problèmes, Alors, on peut plus, il semble qu'on peut rien faire, mais si, encore une chose qu'on peut faire pour rendre la vie plus douce, pour qu'elle soit plus joyeuse et même qu'elle puisse devenir magnifique. Cette chose, eh bien, c'est que nous pouvons être reconnaissants, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, je sais que ça peut sembler contraire aux lois et à la sagesse de ce monde, n'est-ce pas, que de suggérer que quelqu'un qui est écrasé par le chagrin et la difficulté se mette à louer Dieu et rendre grâce à Dieu. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais nous ne sommes pas de ce monde et notre vie se règle avec d'autres principes. Pas avec les principes de ce monde, avec les principes du monde de Dieu, du royaume de Dieu. Il y a des règles dans ce royaume. Et je sais par l'écriture, et je sais aussi maintenant par l'expérience, et si ça fait 40 ans que je suis marié avec la Michou, eh bien ça fait quand même aussi 44 ans ou 46 ans maintenant que je suis converti. J'ai un peu d'expérience quand même, je peux dire, et rendre témoignage que je sais par l'écriture et par l'expérience que lorsque nous mettons de côté la bouteille de l'aigreur pour lever la coupe de la gratitude, alors nous trouvons un breuvage purificateur de guérison, de paix et de compréhension, parce que nous avons besoin de comprendre souvent ce qui nous arrive. Je ne dis pas pourquoi, mais comprendre que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui est bien, même si ça paraît mal. Regardez par exemple Étienne, notre frère Dominique nous parlait d'adorer Dieu. Étienne, la dernière chose qu'il a vue sur terre, c'est qu'il a vu le Père avec le Fils à côté et tout. Eh bien, c'était horrible pour lui. Mais parce que c'est arrivé, nous prenons confiance, nous disons jusqu'au bout. Amen. Donc, dans tout ce qui est mal, c'est affreux d'être lapidé. J'ai vu encore des vidéos affreuses, des choses qui se passent dans les pays musulmans, de lapidation. Et puis alors, des lapidations complètement, c'est complètement injuste, injustifié. Une jeune fille de 17 ans qui a été violée, et parce qu'elle a été violée, eh ben, on la lapide. Et ils ont filmé ça avec des téléphones, puis ils mettent ça sur Internet. C'est affreux. Alors, est-ce que vraiment c'est un bien? Pour nous, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans la bulle de Dieu, dans son royaume. Et toutes choses concourent ensemble à notre bien. Et Étienne, sa mort, la mort de notre frère Étienne, lapidé de cette manière abominable, eh bien, ça concourt à notre bien aussi. Et aussi au sien, puisqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Juste au dernier moment, il l'a vu. Et il en a témoigné devant tout le monde. Nous ne sommes pas de ce monde pour suivre les principes du monde et nous soumettre à l'état d'esprit du monde, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous avons reçu du Seigneur, c'est-à-dire du Maître, un ordre, le commandement, celui de remercier Dieu en toutes choses. C'est un commandement, c'est pas un petit conseil, c'est un commandement. Nous avons bien lu dans Éphésiens 5, 20, que nous devons le faire, mais ce commandement se trouve aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Je vais vous le lire, 1 Thessaloniciens 5, 18. Tu vois, Dominique, quand on lit un texte, le plus facile, quand on a le micro dans la main, c'est de poser le bouquin là. C'est fait pour. Juste une petite remarque, parce que c'est vrai que quand on est en public, devant tout le monde, on est un petit peu, on ne sait plus comment, mais alors là, posez votre livre. 1 Thessaloniciens 5, 18. Soyez toujours joyeux. Waouh! C'est un ordre, hein? C'est un commandement. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors on dit, oui, mais moi, tous ces textes, je les connais, je sais, j'ai déjà entendu. Bon, laissez-moi vous lire quelques textes. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont faire des sauts 3 mètres dans leur demeure en écoutant Internet ou en regardant la vidéo. Laissez-moi vous lire quelques textes dans le livre de Mormon. On va lire dans Moshia 26, 37, 39. Moshia 26, 37, 39. Et il arriva qu'Alma gouverna toutes les affaires de l'Église, Et ils recommencèrent à avoir la paix et à prospérer extrêmement dans les affaires de l'Église, marchant avec circonspection devant Dieu, en recevant beaucoup et en baptisant beaucoup. Et maintenant, toutes ces choses, Alma et ses compagnons de travail qui dirigeaient l'Église, les firent, marchant en toute diligence, enseignant la parole de Dieu en tout, souffrant toutes sortes d'afflictions, étant persécutés par ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu, et ils avertirent leurs frères, et ils étaient aussi avertis chacun par la parole de Dieu, selon ses péchés, ou selon les péchés qu'ils avaient commis, ayant de Dieu le commandement de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses. Vous voyez ? On peut lire aussi dans Alma 7, 23, 24. Et maintenant, je voudrais que vous soyez humbles et que vous soyez soumis et doux, faciles à supplier, pleins de patience et de longanimité, modérés en tout, diligents à garder en tout temps les commandements de Dieu, demandant tout ce dont vous avez besoin, tant spirituellement que temporellement, rendant toujours grâce à Dieu de tout ce que vous recevez. Et veillez à avoir la foi, l'espérance et la charité, et alors vous abonderez toujours en bonne œuvre. Et puis un autre texte, Doctrine et Alliance, 98, 1, 3. Espérez, en vérité, je vous le dis, mes amis, ne craignez pas. Que votre cœur soit réconforté, oui, réjouissez-vous à jamais et rendez grâce en toutes choses. Espérez patiemment dans le Seigneur, car vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées et sont enregistrées avec ce sceau et ce testament. Le Seigneur a juré et décrété qu'elles seront exaucées. C'est pourquoi il vous fait cette promesse avec l'alliance immuable qu'elles seront exaucées. Et toutes les afflictions que vous avez subies concourront à votre bien et à la gloire de mon nom, dit le Seigneur. Amen. C'est la vérité. Tous les gens de foi, tous les gens qui sur la terre ont eu la foi, et tous les gens qui aujourd'hui ont la foi, savent cela. La reconnaissance, c'est l'expression de notre espérance. Et c'est aussi le témoignage manifesté que le Saint-Esprit rend en nous-mêmes, dans notre être intérieur. Il nous faut écouter ce que l'Esprit nous dit. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui a une bouche et qui parle. Écoutez-vous le Saint-Esprit qui vous parle? Ou est-ce que vous êtes simplement en train de voir et d'entendre et de constater les choses qui se voient, qui s'entendent dans cette condition mortelle? Notre reconnaissance, mes frères et sœurs, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Il peut sembler des fois que notre acte de foi, notre reconnaissance, notre gratitude, c'est comme marcher sur l'eau. C'est illogique. Mais pourtant, c'est la façon que Dieu a de faire et c'est ce qu'il nous instruit à faire. Mes frères et sœurs, la reconnaissance vient de ce que nous reconnaissons que nous ne comprenons pas tout. D'accord ? Mais que nous avons confiance. C'est la reconnaissance que nous ne comprenons pas tout, mais que nous avons confiance qu'un jour, nous aurons quoi ? La compréhension. La compréhension. Quand, au bout de quelques temps, nous avons eu un enfant, Michou et moi, alors que nous étions jeunes mariés, cet enfant est décédé. Nous avons dit, nous ne demanderons jamais à Dieu pourquoi, mais un jour il nous dira pourquoi. Nous savons, nous avons cette espérance. Quelle que soit la circonstance, mon frère, ma sœur, dans laquelle on se trouve, notre sentiment de reconnaissance, il est quand même nourri par des réalités, par de nombreuses vérités sacrées que nous savons absolument vraies. Notre connaissance n'est pas dépourvue de cela. Elle est quand même basée sur des réalités. Nous savons que le Père, notre Dieu, a un grand plan de bonheur éternel pour nous et que sur cette terre, c'est un passage. Nous savons que, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pourrons vivre toujours avec nos êtres chers. Nous le savons. Nous savons qu'à la fin, nous aurons un corps glorieux, que nous aurons un corps parfait, que nous nous serons débarrassés de la maladie et de tous les handicaps, nous le savons. Nous savons que nos larmes de tristesse seront changées, seront transformées, seront remplacées par une abondante joie, par un abondant bonheur, par une mesure serrée, secouée, qui déborde de bonheur. Nous le savons. Alors sur le moment peut-être, dans le moment présent, c'est difficile, mais nous avons quand même cette espérance. Et notre reconnaissance, elle est nourrie par cette espérance. Il faut se souvenir de ces choses, se rappeler ces choses, s'entretenir de ces choses. C'est pourquoi l'apôtre dit « Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, par des chants spirituels. » On s'entretient. Pensez aux apôtres. Pensez aux apôtres. Les heures qui ont suivi la crucifixion ont été terribles pour ces gens-là. Ils étaient consumés par le chagrin, ils étaient consumés de douleur, ils étaient malheureux, ils avaient eu tellement d'espoir et tout à coup tout semblait fichu. Ils étaient incapables de comprendre ce qui venait d'arriver. Mettez-vous un petit peu à leur place. Mais Jésus leur apparaît et leur dit, venez, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, c'est bien moi. Et quand les apôtres ont cru que Jésus-Christ était ressuscité, eh bien ils sont devenus des hommes différents. Différents. Plus rien ne pouvait les empêcher d'accomplir leur mission et ils ont accepté avec courage, avec détermination, je dirais même, des tortures, des humiliations et même la mort qui était réservée à ceux qui continuaient à toujours rendre témoignage. On pourrait lire dans Romains 5, 3. Oh ben non, je crois même que je l'ai écrit là. Romains 5, 3, il dit « Nous nous glorifions même des afflictions. » Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et c'est un cercle, c'est comme ça, ça se passe comme ça. C'est un processus. Alors si, évidemment, on sombre directement dans la désespérance en regardant les choses visibles, bien réelles, eh bien on est fichu. Il faut regarder plus loin que ça. Paul s'écriait, car nos légères afflictions du moment présent. Hey, c'était quoi ces légères afflictions du moment présent? Il était jeté aux bêtes dans l'arène. Il était lapidé, fouetté, torturé, emprisonné. Et il appelle ça des légères afflictions. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit, l'apôtre Paul que vous aimez, 2 Corinthiens 4, 17, 18. Tout cela, c'est vrai, ça produit en nous toute une mesure extraordinaire de gloire. Pourquoi ? Parce que nous regardons, alors ça ne produira rien du tout si vous regardez aux choses visibles uniquement. Non seulement vous allez souffrir ici-bas, mais quand vous arriverez en haut, ça ne vous aura rien rapporté de souffrir. Mince alors, c'est ballot. Si vous souffrez ici, ce sont, l'apôtre Paul dit, des légères afflictions. Mais elles produisent un poids de gloire éternelle pour la simple et bonne raison que vous ne regardez pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les visibles sont passagères. C'est passager votre problème d'argent, c'est passager votre maladie, c'est passager votre mal-être, c'est passager, tout ça c'est passager. Regardez aux choses qui demeurent, aux choses invisibles, qui sont éternelles. C'est ça qu'il est en train de nous dire. On peut lire aussi 2 Corinthiens 12, 9, 10. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Tellement de trucs là-dedans. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Ma grâce te suffit. C'est Jésus qui dit ça à Paul. Parce qu'il se plaint un moment. Il n'est pas content, il se plaint. Alors Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, je ne vois pas du tout la puissance de Dieu qui s'accomplit dans ma faiblesse. Qu'est-ce que t'en sais? Tu regardes qu'aux choses visibles. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul, il voit tout à l'envers de ce que le monde voit. Tout à l'envers. Normal que le monde n'aime pas ces enseignements, mais nous les aimons. Amen. Nous les aimons et nous voulons nous efforcer de faire rentrer notre chair là-dedans pour qu'elle soit à sa place. Amen. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, parce que les visibles sont passagères, alors que les invisibles demeurent éternellement. Voilà pourquoi nous avons une autre vision. Mais frères et sœurs, la question elle est, pourquoi le Seigneur nous commande-t-il d'être reconnaissants? Pourquoi? Eh bien, c'est un commandement qui a un but. Exactement le même but que tous les autres commandements. Tous. Tous les commandements sont donnés pour nous permettre d'accéder aux bénédictions. Les commandements sont l'occasion de manifester notre bonne volonté. Et quand nous manifestons notre bonne volonté, les anges ont dit, quand Jésus est arrivé sur la terre, paix aux hommes de... Vous voulez la paix au milieu de votre détresse, au milieu de votre malheur. Voilà comment il faut faire. Obéissez au commandement. Alors certains m'ont dit, oui, mais moi, de quoi puis-je être reconnaissant puisque tout s'effondre? Tout s'effondre. Je crois que on applique la mauvaise méthode quand nous nous concentrons sur les choses dont nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi c'est si difficile pour certains d'être reconnaissants. Parce qu'il faut le dire, j'espère que je le dis bien, il est difficile de cultiver un esprit reconnaissant si notre gratitude n'est que proportionnelle au nombre de bénédictions que nous pouvons compter et qui sont visibles. C'est difficile. Parce que quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand on a un petit bobo, on est hypnotisé par ça. Et alors quand c'est gros, ben alors là c'est pire encore. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais c'est difficile des fois de faire la part des choses quand on est dans l'affliction, dans la détresse, dans la maladie, dans les problèmes. Bon, il est important, c'est vrai, de compter les bienfaits de Dieu. Et tous ceux qui font l'exercice de compter les bienfaits de Dieu s'aperçoivent qu'ils sont nombreux. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais simplement, je voudrais dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne s'attend pas du tout à ce que nous soyons moins reconnaissants dans les moments d'épreuve que dans les moments d'abondance et de calme. Puisqu'il nous commande d'être reconnaissants, il trouve étrange que nous ne le soyons pas. Nous n'avons pas à comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants parce qu'il dit que nous devons être reconnaissants. Et de toute façon, tout commandement de Dieu est utile pour notre bien. Lorsque nous le mettons en pratique, cela nous fait du bien. Ça, nous le savons. Mais comment ça va arriver? On n'en sait rien. Et il ne nous dit pas. Ah, il n'est pas aussi bavard que moi, hein, Dieu. S'il dit « sois reconnaissant », il faut être reconnaissant. Les textes sacrés nous recommandent d'être reconnaissants en toutes choses. Pour les bonnes, et aussi pour les mauvaises choses. Les textes sacrés nous commandent d'avoir une attitude générale de gratitude. Merci pour ce qui m'arrive. Merci pour cette épreuve qui me permet d'avoir de pouvoir manifester un autre état d'esprit que l'état d'esprit des gens de ce monde et qui me permet de te glorifier. Merci, merci, merci. La gratitude, ça doit être un état d'esprit. Au début, ça ne l'est pas. Au début, c'est un exercice, on s'efforce, notre chair n'aime pas ça, mais on s'en fiche de la chair. On la maintient dans l'obéissance au nom du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Et on lui dit, voilà, tu vas faire maintenant. Alors, elle n'aime pas, mais ça commence par être simplement des paroles qu'on dit, des attitudes. Plutôt que de se tenir mal, on se tient bien. Plutôt que de faire la gueule, on fait un sourire. Vous allez me dire, mais c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Appelez-vous ça comme vous. Et si vous pensez que c'est de l'hypocrisie du mensonge, c'est que vous n'écoutez pas la parole. La gratitude, ça doit être un état d'esprit, mais ça vient. Ça vient petit à petit par l'exercice. La gratitude doit être une façon de vivre indépendante des situations dans lesquelles on se trouve. Détaché. Détaché. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir d'être? Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? On peut choisir d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir un cœur dont la reconnaissance ne faiblit jamais. Ou nous pouvons choisir de murmurer, de rouspéter, et même de murmurer contre le Seigneur à cause de nos afflictions. Ça, c'est les deux extrêmes. Puis il y a toutes sortes de petits trucs entre deux. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, vous ne pouvez, ça ne veut pas dire que quand ça va mal, il faut, vous pouvez en parler aux frères et sœurs pour qu'on prie pour vous, vous pouvez parler pour qu'on vous, mais c'est terrible, quand vous arrivez vers certaines personnes, elle est décédée maintenant, mais chaque fois qu'on arrivait vers cette sœur, c'était en Suisse, une vieille dame, on n'osait plus lui demander comment ça va, parce que ça finissait par la liste de toutes ses opérations, les passées, les futures, et puis les médicaments qu'elle prend, et puis qu'elle prenait, puis qu'elle prend plus, parce que ça lui fait du mal, mais par contre, on a prouvé ce nouveau médicament. Alors, c'est épouvantable, c'était que ça. Vous en connaissez des gens comme ça? C'est terrible, c'est un extrême aussi. Nous pouvons parler, mais dans un but, dans le but de trouver de la compassion, dans le but de trouver une aide, dans le but d'être béni par la personne à qui on parle, mais pas dans le but de l'enfoncer, de lui faire porter notre fardeau, puis qu'on se dise, ben, je ne suis pas tout seul à souffrir. Non, c'est dans le but d'être aidé et de pouvoir faire un bout de chemin à deux plutôt que tout seul. Nous pouvons choisir d'être comme Job qui disait, je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre tout nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez, il y avait une sacrée attitude. Frères et sœurs, faisons bon gré, de bon gré, tout ce qui est dans notre pouvoir. Ça, c'est important. Si on fait ça, nous pourrons nous tenir dans toutes les difficultés avec la plus grande assurance de voir le bras de Dieu se lever pour nous et se révéler pour nous. Nous pouvons choisir d'être reconnaissants quoi qu'il arrive. La reconnaissance, elle surpasse la déception. La reconnaissance, elle surpasse le découragement, elle surpasse le désespoir. La reconnaissance, au début, c'est comme une semence, mais ça grandit si on lui donne vie. Mais frères et sœurs, il faut l'avouer. C'est très mesquin d'être reconnaissant une fois que les problèmes sont résolus. C'est très mesquin. Beaucoup perdent des bénédictions extraordinaires parce qu'ils attendent de voir l'arc-en-ciel pour pouvoir dire, ouais, finalement, la pluie, c'était bien parce qu'on en avait bien besoin. Mais ils attendent l'arc-en-ciel avant. Maintenant, être reconnaissant, ça ne signifie pas être satisfait de la situation terrible dans laquelle on est. Être reconnaissant, ça signifie que nous avons le regard de la foi, que nous regardons au-delà de nos difficultés. La reconnaissance dont je vous parle ce matin, ça va plus loin que les mots, c'est la reconnaissance de l'âme, du cœur, de notre être intérieur, de notre esprit, de ce qui est éternel. Être reconnaissant, quand tout va de travers, c'est un acte de foi en Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu? On l'a lu. Dieu veut que nous ayons confiance en lui et que nous espérions les choses que nous ne voyons pas, mais qui sont vraies. Qui sont vraies. Alors vous connaissez tous les versets bibliques de ces choses-là, vous avez lu tous les livres de David Wilkerson, de T.L. Osborne, et vous avez lu tous les livres de William Branham, et vous avez lu tous les hommes, toutes ces choses, tous ces livres extraordinaires qui parlent de ces choses, et vous les connaissez tellement que ça ne vous impressionne plus. Alors laissez-moi vous lire un texte là dans Alma 32, 21-22. Et maintenant, comme je l'ai dit concernant la foi, ce n'est pas avoir la connaissance parfaite des choses qui vous arrivent. C'est pourquoi, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. Et maintenant, voici, je vous dis, je voudrais que vous vous en souveniez, que Dieu est miséricordieux envers tous ceux qui croient en son nom. C'est pourquoi il désire en premier lieu que vous croyiez, oui, que vous croyiez en sa parole. Mes frères et sœurs, il n'est pas nécessaire de voir Jésus comme les apôtres ont vu Jésus pour croire qu'il est ressuscité. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous ne voyez pas Jésus qui est ressuscité, vous croyez qu'il est ressuscité. Êtes-vous heureux? C'est ça qui doit vous donner cette joie. La parole, elle a le pouvoir de vous transformer. Quand vous lisez les Écritures, Jésus peut témoigner à votre esprit. Elle vous aide à regarder au-delà des tristes réalités de la condition mortelle et de voir l'avenir brillant qui est en réserve pour vous. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, ça se voit. Ça se voit. Ou alors vous avez plein de gens qui la lisent, mais qui ne sont pas dans un esprit saint, qui ne sont pas dans un esprit de prière. Ils la lisent. Je me rappelle, il y avait un frère qui était comme ça, il vivait chez nous tout au début de la communauté, et je le voyais tous les soirs assis en train de lire sa Bible. Je dis, oh, c'est formidable, il la lit pendant une heure tous les soirs, c'est génial. Puis un jour, j'ai dit, je trouve que c'est formidable. Il dit, ouais, bon, pour ça me rapporte. Je dis, comment ça? Il dit, ouais, je comprends rien de ce que je lis. Mais ça m'a fait un peu drôle. Il la lisait parce qu'on lui avait dit qu'il fallait la lire, mais il ne la lisait pas dans un esprit de prière, de gratitude. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ces choses. Merci mon Dieu de me parler, merci parce que c'est toi qui es en train de me parler. Cette parole, elle a le pouvoir de vous transformer quand vous la lisez avec cet esprit de prière. Dominique nous l'a très bien dit dans sa prédication, c'est en esprit que cela se passe. Bien sûr, vous lisez avec les yeux de votre chair, mais c'est en esprit que ça se passe. Ça, c'est difficile à expliquer ce que c'est. Mais ça existe. Elle va vous aider, la parole de Dieu, à regarder au-delà de vos tristesses. Nous savons qu'est-ce que c'est notre destinée éternelle. Nous le savons tous. Cependant, beaucoup sont accablés en présence des tristes fins des choses de la vie, de cette vie terrestre. Alors, c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'on est attristé par la fin des choses? La fin de l'abondance, la fin de la vie d'un être cher, la fin. Pourquoi on est attristé par la fin? F-I-N. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui n'accepte pas qu'il y ait une fin. Je vous l'avais déjà dit. Parce que nous sommes faits d'éternité. Parce que nous sommes des êtres éternels, parce que les choses qui ont une fin ne sont pas notre destinée. Mes frères et sœurs, plus nous apprenons au sujet de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, plus nous apprenons et plus nous prenons conscience que ce qui est une fin dans cette condition mortelle ici-bas, ça n'est pas une fin du tout. Mais il faut encore apprendre les choses concernant l'éternité. Les choses qui ont une fin, ça semble fini, mais c'est simplement une pause temporaire qui, un jour, nous paraîtra complètement insignifiant comparé à la gloire éternelle que nous serons en train de vivre. On ne pensera même plus à ça. Alors, mes frères et sœurs, je suis reconnaissant à mon Père Céleste que dans son plan, il n'y a pas de véritable fin. Ça n'existe pas, le mot the end. Il n'y a pas de fin, mais seulement des débuts éternels. Mes frères et sœurs, nous avons tout lieu de nous réjouir, en toutes circonstances, en toute situation. Voyez la main de Dieu dans la merveilleuse tapisserie de la vie. Notre sœur Corinne Tinboom était venue en Suisse dans l'église où était ma mère. J'étais pas là ce jour-là, mais ma mère m'a raconté. La sœur Tinboom, c'était une femme qui avait vécu dans les camps de concentration des horreurs. Il y a eu un film qui était tiré de cela, un film de Billy Graham, avec Julia Rhys, qui joue le rôle de Corrie Ten Boom, je vous recommande. Eh bien, dans cette conférence qu'elle avait donnée là en Suisse, c'était une vieille dame alors, elle a sorti de son sac un morceau de tissu plein de bouts de fil dans tous les sens. Elle a dit, vous voyez ça? Ça, c'est notre vie qu'on voit. Mais maintenant, la réalité, c'est ça. Puis elle a retourné la tapisserie et ça représentait une belle chose. Je ne sais pas exactement quoi, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était un portrait de Jésus, je ne sais pas. Mais la tapisserie à l'envers, c'est moche. Ben, ce que nous vivons ici-bas, c'est moche. C'est l'envers de la tapisserie. Mais quand on va passer de l'autre côté, ah, on va comprendre. Alors, sachant cela, réjouissez-vous. Voyez la main de Dieu dans la merveilleuse tapisserie de la vie. Voyez la main de Dieu. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. La reconnaissance envers Jésus-Christ, notre Dieu, ça a élargi notre perception. La reconnaissance, quand on rentre dans ce processus, quand on fait de la reconnaissance un état d'esprit, ça éclaircit notre vision. On voit clair, de mieux en mieux. Et puis finalement, la reconnaissance, ça nous pousse à l'humilité. La reconnaissance, ça favorise en nous la compassion. Parce que plutôt que de se regarder le nombril, peut-être qu'il est très infecté, votre nombril. Peut-être que votre vie est très infectée par toutes sortes de problèmes. Mais si vous rentrez dans la reconnaissance, vous allez avoir de la compassion pour les autres parce qu'il y en a qui souffrent bien plus que vous et dont vous vous foutez complètement. Moi, le premier. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Quand on rentre dans la gratitude, voilà qu'on s'aperçoit qu'il y a les autres aussi qui souffrent et on va vers eux. Alors vivons au quotidien dans les actions de grâce. Exprimons par nos paroles, par notre comportement, notre reconnaissance envers Jésus-Christ, notre Dieu. Je témoigne, mes frères et sœurs, que c'est ce que Dieu veut que je vous dise ce matin, vraiment. Parce que c'est difficile, mais ça n'est pas fini. Ça va devenir encore plus difficile. Exerçons-nous à la piété. Ne perdons pas de temps. Exerçons-nous à l'obéissance. Soumettons notre chair et notre intelligence merveilleuse à la volonté de Dieu. Un cœur reconnaissant engendre toutes sortes de belles vertus. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur de permettre que mes frères et sœurs et moi-même nous entrions réellement en plein eau de la reconnaissance, dans la gratitude. Merci Seigneur de nous aider toujours et toujours et toujours, chaque matin, à recommencer à entrer dans la louange. Merci Seigneur Jésus pour cela. Amen. Je voulais vous dire encore une chose. Dans ma poche, j'ai toujours ma pierre de gratitude. Est-ce que vous avez toujours votre pierre de gratitude? Moi, je l'ai toujours. Vous vous rappelez que je vous avais prêché là-dessus? La pierre de gratitude. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette pierre? Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un gris-gris. C'est simplement un pense-bête. Quand ça ne va pas bien, je mets les mains dans les poches, hop! Je trouve ma pierre de gratitude. Ah oui, Seigneur, j'entre dans la gratitude plutôt que dans la plainte ou les murmures et tous ces machins. Tout. La pierre de gratitude, c'est juste un pense-bête. Ayez ça dans votre poche, à votre portée. Mesdames, vous n'avez peut-être pas de poche, quoique maintenant, les femmes portent le pantalon aussi, donc elles ont des poches. Mais dans votre sac, à portée de votre main, une pierre de gratitude. Une pierre qui vous rappelle que vous devez entrer dans la gratitude. C'est un pense-bête. N'allez pas dire, Michel, il a un gris-gris, si vous dites ça. C'est pas comme ma pierre de gratitude est un pense-bête, c'est que vous êtes bête. Que Dieu vous bénisse. Ayez une pierre de gratitude, ça fait du bien. Parce que de temps en temps, il y a des tsunamis qui nous arrivent. Et puis on boit la tasse, comme on dit. On a besoin d'avoir un pense-bête pour nous rappeler. Non, attends, voilà, je vais rentrer dans la gratitude plutôt que dans l'inquiétude. Que Dieu vous bénisse. Amen.